Chapitre 42. Eris, été 2002. Devant la porte de l'atelier, Grace s'approcha à quatre pattes du corps de Julian. Tout en s'efforçant de ne pas le regarder, elle posa l'index et le majeur sur sa gorge pour prendre son pouls. Il avait la moitié du crâne enfoncé, donc il y avait peu de chances qu'elle trouve un signe de vie. Mais on n'est jamais trop prudent. Ses doigts ne perçurent rien, et pourtant, ainsi agenouillée dans l'herbe, elle eut l'impression de sentir les palpitations du cœur de Julian jusque dans le sol, le sang qui s'échappait en pulsations fébriles imbibant la terre. Les yeux fermés, Grace inhala la riche odeur métallique. Elle inspira et expira calmement, en attendant que ses propres battements ralentissent. Quand elle rouvrit les paupières, quand elle sentit que ses jambes avaient à nouveau la force de la porter, elle se leva et s'aperçut que la marée avait commencé à monter. Il était déjà presque trop tard pour traverser. Elle s'autorisa un instant de soulagement. Personne n'allait venir, personne n'allait la surprendre avec du sang sur les mains. À présent, elle avait du temps devant elle, 6 heures. Et après cela, ce serait le milieu de la nuit. Elle le toucha, tapota le flanc le plus proche, la poche de son pantalon, puis se pencha pour fouiller l'autre poche et trouva les clés de la voiture. Il avait dû la laisser en bas du sentier. Il fallait vite qu'elle la déplace. Sur le chemin de la maison, elle éprouva soudain une joie immense. Les collines en face d'elle étaient d'un vert luxuriant, comme du velours. Les ajoncs brûlés par le soleil avaient revêtu une teinte dorée. La mer scintillait de toute sa gloire. Et Julian était mort. Elle avait envie de chanter, de crier victoire, de s'époumoner. « Regardez, regardez ce que j'ai fait !» Cela dura un instant, puis l'euphorie se dissipa et Grace recouvra ses esprits. Il y avait encore plusieurs aspects pratiques à résoudre. Elle déverrouilla la décapotable et après un mouvement de recul face à la chaleur et à l'horrible odeur de tabac froid qui s'échappèrent de l'habitacle, elle s'installa au volant et alla garer le véhicule derrière la maison, là où il serait invisible du continent. Elle rentra se laver les mains et s'asperger le visage d'eau froide. Puis, se servit un verre et se mit à réfléchir. Le plus raisonnable à présent aurait été de rester à l'intérieur en attendant la tombée de la nuit. Mais Grace fut alors prise d'une peur irrationnelle. Elle était persuadée que la prochaine fois qu'elle regarderait vers l'atelier, le corps aurait disparu. Ou pire, que la prochaine fois qu'elle jetterait un coup d'œil par la fenêtre, c'est lui qu'elle verrait, debout, avec son crâne enfoncé et ses affreux rictus sur la figure. Elle choisit donc de remonter s'asseoir en haut de la colline pour garder un œil sur lui, pour regarder les nuages se teinter de rose, d'orange et enfin de rouge, avant que toute couleur ne s'en échappe à la faveur du crépuscule, tout comme le sang de Julian qui continuait de s'écouler dans la terre. Elle attendit que le ciel se fasse aussi froid que sa peau, et pendant cette heure bleue où la nuit empiétait peu à peu sur le jour, Grace pleura, effrayée par ce qu'elle avait fait et par ce qui lui restait à faire. Cependant, une fois qu'il fit noir, elle cessa de s'apitoyer sur son sort et se mit au travail. Son projet consistait à tirer le corps jusqu'au pied de la colline, puis à le hisser sur le promontoire sud, où la falaise plongeait dans la mer. Quand on retrouverait Julian, si on le retrouvait, il serait impossible de déterminer si sa blessure à la tête résultait d'un coup, d'une chute, ou du fait d'avoir été ballotté par les vagues contre les rochers. Mais presque dès l'instant où elle lui prit les poignets, elle sut que même si elle disposait de la nuit entière, de la journée qui suivait et du lendemain, elle ne réussirait jamais à l'emmener jusqu'au promontoire. Julian mesurait plus d'1,80 m, et il n'était pas menu. Au bout d'une demi-heure, elle dégoulinait de sueur et l'avait à peine déplacé d'1 mètre. Et cette partie du trajet était en pente. Elle le lâcha, se laissa tomber au sol et poussa un cri. Elle avait atterri sur quelque chose de dur. La fosse septique. Il lui fallut un bon moment pour l'ouvrir. Pendant de longues minutes d'angoisse, elle crut qu'elle ne pourrait pas soulever le couvercle, un carré de béton de 50 cm de côté extrêmement lourd. Mais après beaucoup d'efforts et une bordée de jurons, après des haut-le-cœurs devant la puanteur fétide qui s'échappait de la cuve, après avoir calé des burins dans les interstices en guise de levier, elle parvint à faire basculer le battant et l'appuya contre une grosse pierre. Sous un ciel sans lune, elle remonta la colline, ramassa le caillou le plus lourd qu'elle trouva et le cala dans la ceinture du pantalon de Julian. Puis, avec un plaisir indéniable, elle s'employa à faire tomber Julian la tête la première dans la fosse immonde. Alors qu'elle finissait de replacer le couvercle, elle se coinça le majeur dans l'ouverture. Avec un hurlement, elle réussit à se libérer et se releva en titubant, les yeux pleins de larmes, submergée par la fureur qui survient parfois dans les moments de stress et de douleur intense, submergée par la rancœur d'être celle qui souffrait tant, alors que tout était la faute de Vanessa, tout. Si elle n'avait pas ouvert leur île, leur maison, son lit à cet intrus, si elle n'avait pas pactisé avec lui et promis de le rejoindre, rien de tout cela ne se serait produit. Aveuglée par la rage, elle courut jusqu'à l'atelier où elle attrapa le bord de la table à tréteau qu'elle renversa brusquement, en voyant s'écraser au sol l'ensemble des céramiques restantes. Puis, elle s'empara d'un fragment de porcelaine et lacéra la toile la plus proche, Nord. Elle lacéra le rocher d'Iris. Elle lacéra Hiver. Dans une frénésie de violence, elle continua de déchirer et de taillader sans s'arrêter jusqu'à ce qu'elle se retrouve face à son propre regard solennel, jusqu'à ce qu'elle se retrouve face à Totem.